La bibliothèque En Vadrouille est à l'école d'art de Belfort en ce 24 novembre et un petit entretien donc avec Xavier Fou. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'un des fondateurs donc de Bureau d'études en 1998. Alors c'était l'un des objets de votre conférence, mais est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu, en quelques mots, la genèse de ce projet que vous avez mené avec deux autres personnes au début, puis maintenant que vous poursuivez à deux?
Alors en fait, on a commencé à travailler ensemble en 1992, ça s'appelait pas Bureau d'études en fait à ce moment-là, on utilisait plutôt nos noms et c'est devenu Bureau d'études en 2001, où c'est devenu en fait un nom commun, on est passé des noms propres au nom commun.
D'accord. Et alors, ce soir, vous avez montré un certain nombre d'exemples, notamment de cartes et de projets que vous avez conduits dans divers champs. Et alors, moi, il y a un mot que je n'ai pas approfondi du tout, mais dont on entend beaucoup parler en ce moment, et je me demandais s'il y avait un lien entre votre pratique et ce mot-là. C'est le mot de heuristique, carte heuristique. Vous sentez proche de cette technique-là, puisqu'on le cite beaucoup comme étant une manière aussi de simplifier sa pensée dans des réunions, etc. Donc, voilà. Est-ce que ça vous...
Bon, on a pu travailler sur des cartes heuristiques, mais là, les cartes qu'on fait ne sont pas des cartes heuristiques, c'est vraiment des cartes de système. Donc ce sont des cartes qui décrivent et qui décryptent en fait des structures, des réseaux de pouvoir. Voilà, donc ça peut être dans autant des réseaux de pouvoir dans les milieux économiques, financiers, que dans la presse, que les réseaux de pouvoir qui sont internes à l'État, etc.
Dans plusieurs champs de référence, entre autres artistiques et puis le champ des organisations. Alors, sauf erreur de ma part, vous aviez collaboré l'une de ces cartes à une revue qui s'appelle la revue Z, revue itinérante de critique sociale, pour laquelle vous aviez élaboré une cartographie assez impressionnante des systèmes de santé, enfin des fichiers à la fois de santé, le croisement des fichiers. Donc juste un mot pour savoir que cette revue, elle continue, mais je trouvais que c'était leur sous-titre, vous, sans connaître intégralement votre travail, leur correspond bien aussi à une partie de vos activités, revue itinérante de critique sociale.
Oui.
Alors voilà, peut-être un mot, comment vous les avez rencontrés, et puis comment vous avez conçu cette collaboration pour cette revue.
D'accord. Cette revue, effectivement, c'est une super revue qui fait des enquêtes situées. On s'est rencontrés, en fait, à mon avis, c'est dans des mouvements plutôt de critique des techniques, je pense. Voilà. Et puis, en fait, pour cette carte, on a bossé notamment avec un gars qui s'était occupé des Big Brother Awards, qui était donc ce prix qu'on a d'ailleurs reçu pour la carte qu'on a fait, qui s'appelait Biopolis, qui donnait un prix pour tout ce qui était critique sur les systèmes de surveillance. Voilà. Notamment, il nous a fourni, une compulsion à lister toutes les bases de données. C'est un sujet qu'il connaissait parfaitement. Donc nous, on a plutôt... Là, en fait, on n'a pas fait ce qu'on fait habituellement, qui est aussi de chercher les données. Et là, c'est vraiment lui qui nous a amené une quantité industrielle de données sur le sujet, quoi. Voilà.
Alors, après la revue Z, j'ai devant moi une revue qui est aussi une revue à laquelle vous avez contribué. C'est la revue Checkpoint, en 2006.
Oui.
Et là aussi, je pense que ça vaut le coup de feuilleter et puis de réouvrir les pages que vous aviez... auquel vous aviez participé.
Ah oui, c'est ça, oui.
Tout un travail assez impressionnant intitulé Économie du jeu. Et là aussi, peut-être évoquer deux personnes, puis ils sont un peu, si j'ai bien observé, l'ours, les initiateurs de ce projet, à la fois donc Jamel Kokhen, puisque c'est une revue bilingue, on n'a pas précisé en français et en arabe, et Jean-Claude Moineau, qui est quelqu'un aussi très important, un auteur, un philosophe, qui a fondé aussi... sa propre maison d'édition. Voilà. Alors, à la fois commenter cette proposition, puis aussi savoir si vous avez eu l'occasion de les rencontrer, ces deux personnes que je viens de nommer.
Oui, bah c'est surtout Jamel Kokhen, en fait. Moineau, je ne le connais pas. Donc, c'est avec lui qu'on a recroisé à d'autres occasions, qui est une personnalité assez éruptive, comme ça, assez sympathique. Voilà, donc il nous avait demandé de collaborer, et là-dessus on avait fait donc cette carte qui s'appelle Économie du jeu, qui est grosso modo comment dire, comment en partant de soi on se raccorde ou non dans ses choix de vie au système, quoi. Si on décide de rouler à vélo, ben on ne roule pas en voiture. Si on décide de rouler en voiture, eh ben ça veut dire qu'on utilise du pétrole, donc on fait tourner des guerres dans le Moyen-Orient, etc. C'était un peu ce principe, là, qui est présenté dans cette carte. Hein.
Alors ensuite peut-être un mot aussi pour réagir à un des outils que vous avez cités dans la conférence sans le développer de trop, puisque j'imagine que pour faire de telles cartes, il y a un long travail de recherche, de documentation. Vous fréquentez des bibliothèques, sûrement aussi des entretiens avec des personnes, mais vous avez évoqué, je ne sais plus pour quel projet, l'emploi du logiciel Zotero.
Ah oui.
Alors, pouvez-vous nous en dire quelques mots sur l'utilité de ce logiciel, qui est un logiciel libre, je crois.
Bah, Zotero, en fait, c'est un outil classique d'indexation d'articles scientifiques. Donc, c'est très facile. En fait, il y a des codes pour les revues scientifiques, comme les codes DOI. Donc, en fait, il suffit qu'on clique sur les référents DOI et c'est directement indexé dans la base Zotero. Et après, en fait, une fois qu'on les a indexés, on peut extraire cette base et la mettre en forme. Donc là, c'est en D3JS, donc ça donne une sorte de configuration de points qui ordonne, en fait, suivant un certain nombre de critères, les articles indexés.
Et alors, autre question, toujours des rebonds sur la conférence de ce soir. Vous avez cité donc l'expérience menée dans l'Allier de la ferme de la Motte, qui est une tentative donc de créer une structure qui refuse la propriété. Donc là, encore une fois, en quelques mots, réévoquer un petit peu cette expérience et montrer ce qu'elle a pu déjà changer à l'échelle d'un groupe pour l'instant assez réduit, mais qui, d'après vous, ne doit pas dépasser une trentaine de personnes, qui aujourd'hui contient 20 et qui aurait un seuil critique d'un peu en dessous de 30.
Oui. Donc la ferme de la Motte, effectivement, maintenant c'est une vingtaine de personnes avec différentes activités, différentes cultures. Hein, puis il y a à la fois des agriculteurs, il y a un théâtre, il y a un magasin, des gîtes, des chevaux, etc. On est organisé pour la gestion des usages et les décisions sur le développement et sur les investissements. On a un collectif d'administrateurs où il y a un peu moins de 10 personnes. Et donc c'est là que se prennent toutes les décisions. Et en fait, on a dissocié propriété-usage. Donc en fait, on a créé un fonds de dotation dont le but est de sortir la terre et le bâti de la propriété. Donc c'est effectivement une forme un peu paradoxale. De façon comment dire, à sortir le pouvoir du propriétaire et que en fait toutes les décisions retournent des usagers. Voilà. Donc il y a vraiment une sorte de double structure. Il y a un propriétaire qui est mis de côté et après il y a une structure en collectif d'administrateurs qui gère le lieu. Voilà.
Et avec des personnes qui viennent d'univers différents, d'âges différents, enfin, au niveau de la composition sociologique.
Ouais, effectivement, il y a plusieurs générations déjà, ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs. Hein. Après, il y a plusieurs cultures, parce qu'il y a donc maraîcher, plutôt dans la construction. Nous, ben, plutôt artistes, donc un peu plus intello. Voilà, donc ça fait une sorte de différentes cultures, c'est plutôt bien. Ça ne s'est pas construit sur une base affinitaire, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'il a fallu se renifler, se rencontrer, accepter l'autre dans sa différence, etc. Et apprendre à travailler ensemble.
Alors tout à l'heure, pendant le dîner, j'avais noté aussi une expression, parce qu'on avait eu l'occasion de parler hors micro déjà de ce sujet, notamment le terme que j'ai bien aimé lorsque tu l'as dit, de géologie sociale, puisque peut-être qu'il faut préciser que vous n'avez pas implanté ça dans n'importe quel endroit, puisque c'est dans un endroit qui est assez historiquement marqué comme étant un lieu, tu me l'as appris, de fondateur pour le syndicalisme agricole, tu ne dis pas de
Oui.
bêtises. On peut être réinsister sur cet aspect-là, même si on est aujourd'hui en
Oui.
2016, mais cette notion de géologie sociale me paraît intéressante à discuter.
Et ben donc, comme la géologie, en fait, il y a plusieurs couches. Donc, effectivement, une couche, mettons, assez ancienne, mettons, qui a 150 ans. Donc c'est celle où il y a effectivement cette genèse de du syndicalisme agricole dans le coin. La ferme sur laquelle on est, il y a 150 ans, fonctionnait en collectif avec 9 autres fermes. En fait, il y avait une sorte de réseau de 10 fermes qui travaillaient ensemble. Il n'y a pas trop d'archives là-dessus, hein. C'est la mémoire orale. Quand on va aux archives départementales, il n'y a pas d'éléments là-dessus. Donc on va mettre quelqu'un là-dessus pour essayer de trouver des traces. Donc ça, on pourrait dire que c'est un peu une autre couche. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que cette ferme-là, dans les années 50, il y avait 40 personnes, hein, qui vivaient sur cette ferme. Et donc c'est passé donc 10 fermes, après une ferme, où il y avait quand même toujours 40 personnes, avec des conditions quelquefois assez précaires. Et c'est passé après de 40 personnes à 2 personnes dans les années 80. Et puis après, effectivement, donc nouvelle couche, néo-ruraux qui viennent, qui font un projet, qui périclitent, etc. Et donc maintenant, on pourrait dire une nouvelle couche géologique avec le projet que j'ai décrit avant, quoi. Donc c'est important d'effectivement d'être conscient de cette géologie qui fait résurgence, en fait, qui donne de la force. C'est comme si les histoires
Et puis qui
étaient.
légitimise aussi tout le
Ouais, mais
travail.
c'est comme si les choses étaient imprégnées dans les murs et qu'en fait, on travaille autant avec le passé que le présent, quoi. Ce sont des choses qui sont quelquefois toujours aussi actives, quoi. Ouais.